Deux Rois, chapitre 4, nous lirons à partir du verset 8. Et c'est l'histoire de la Tsunamite. Un jour, Élisée passait par Sunem. Dites Sunem. Sunem signifie le lieu du double repos. Alléluia. Un jour, Élisée passait par Sunem, un lieu de double repos. Alors qu'il passait par cet endroit, la Bible déclare que il y avait là, dans ce lieu de double repos, une femme de distinction. Dites une femme de distinction. Le mot distinction ici est dérivé du mot excellence, est dérivé du mot rayonnement, est dérivé du mot éclat. Et l'origine de toutes ces dérivées, tenez-vous bien, c'est le mot Christ. En d'autres termes, distinction ici, c'est une dérivée de Christ. Ça veut dire en fait, en d'autres termes, il y avait là une femme de Christ. Suivez-moi, bien-aimé. Il est écrit, Christ en nous est l'espérance de la gloire. Alléluia. Et le mot gloire ici qui est utilisé est le même mot qui est utilisé pour dire distinction, pour dire excellence, pour dire éclat, pour dire rayonnement. Quand la Bible déclare Christ en moi est l'espérance de la gloire, ça veut dire quoi? Christ en moi, c'est l'espérance qu'un jour, je vais rayonner, je vais briller, je vais avoir un éclat, je vais être distingué. En d'autres termes, c'est quoi cette distinction, ce rayonnement? Ce n'est rien d'autre que la manifestation du Christ qui est en moi, qui sort et qui apparaît et qui rayonne. En d'autres termes encore, c'est simplement l'accomplissement du verset qui dit « Le monde entier, la création entière, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et qui sont les fils de Dieu? Les Christ. Vous êtes des bons élèves. Ça veut dire que cette conférence va être la continuité de ce qu'on a vu ensemble durant cet été en août. Christ en nous, l'espérance de la gloire, de l'éclat, du rayonnement. Et ce mot-là, gloire, c'est le mot grec doxa, la doxa. Ça veut dire en fait ici, à Sunem, un lieu de double repos, il y avait une femme qui avait la doxa. Une femme qui avait la distinction. Une femme qui avait un rayonnement. Une femme qui avait une influence. Une femme qui avait un impact dans son environnement. Une femme qui avait une importance capitale dans la société. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque cette femme-là a vu le prophète Élisée, alors qu'un jour Élisée passait par Sunem, il y avait là donc une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendit chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons un petit endroit, une petite chambre, une chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle la Tsunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Alléluia. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas. Mène et pars et ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Tsunamite maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu, alléluia, dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché. Et ne me l'a point fait connaître. Peut-être ton frère, un prophète ne voit pas tout. Il y a des choses que Dieu lui cache. Ne t'attache pas à un prophète. Attache-toi à Dieu. As-tu déjà acclamé le Seigneur? Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant, la mère de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix, ni signe d'attention. On parlera de Géasi durant cette conférence. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta les choses en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il étendit, alléluia, sur lui. Il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Et Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle se jeta à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je suis venu en même temps pour vous souhaiter la bonne année. Vous savez pourquoi? Parce que le 31 décembre de chaque année, nous célébrons le nouvel an dans notre église à Bordeaux. Et Dieu me donne un message pour son peuple dans le monde entier. Et le culte est retransmis en direct, on est suivi partout dans le monde entier. Et je donne un message prophétique pour l'année qui va suivre. Donc l'année 2011, Dieu m'a donné un message. Et j'aimerais vous dire... Vous savez, la Bible déclare que, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, est un. Dites un. Le Seigneur notre Dieu est un. Remarquez bien que nous sommes dans l'année 2011. 11, c'est un. Et un. 11, c'est un. Et un. La traduction grecque, et même hébreu d'ailleurs, du verset que je viens de citer, dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. En d'autres termes, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est distinct. Le Seigneur notre Dieu est un Dieu de distinction. Donc, un est le chiffre de la distinction. Mais tu n'es pas dans la distinction. C'est un et un. Donc, cette année, tu es dans la double distinction. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de te souhaiter la bonne année. Et je suis en train de te dire que cette année pour toi sera une année de double distinction. Alléluia! Cette année que Dieu va te distinguer deux fois. Voilà pourquoi la Bible nous dit que à Sunem, il y avait quoi? La double distinction. Le double repos. Alléluia! Et que là, à Sunem, il y avait une femme qu'on appelait la Tsunamite. Et cette femme était une femme de distinction. Alléluia! Maintenant, est-ce que vous connaissez qui est cette femme? Alléluia! Bien-aimés, les théologiens qui sont ici pourront s'accorder avec moi pour dire, quand Dieu parle de l'Église, il prend l'image de la femme. La Tsunamite, c'est l'Église. Tu ne m'as pas compris. La Tsunamite dont il s'agit ici, c'est l'image de l'Église. Ce que Dieu attend de l'Église cette année 2011, c'est qu'elle rentre dans la vie. Et le défi que l'Église a maintenant, à partir du 1er janvier 2011, jusqu'en fin d'année, le 31 décembre 2011, c'est qu'elle se distingue. Pas seulement se distinguer de par sa façon d'être, comme elle a été jusqu'à présent, mais elle doit se distinguer doublement, parce qu'elle doit avoir un impact dans la société, dans l'environnement. Elle doit toucher maintenant les nations. Elle doit toucher les systèmes. Elle doit toucher les gouvernements. Voilà pourquoi Dieu, aujourd'hui, va nous entretenir, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la conférence, sur un thème qui engage l'Église dans cette double distinction. C'est le défi de l'Église face à la destinée de la nation. À Sunem, il y avait une femme de double distinction. Alors, j'aimerais vous partager certains principes très important. Je ne pourrai pas tout finir ce soir, on est ensemble pendant les 4 jours. J'aimerais attirer votre attention sur une situation que cette femme est en train de vivre. Cette femme n'a pas d'enfant. Et quand on parle d'enfant, on parle de quoi exactement? Un fils, une fille. Et cette femme, elle a prié, elle a cherché pendant longtemps. Elle n'a pas eu d'enfant. Je vous ai dit que cette femme, c'est l'Église. C'est l'Église de l'Alliance chrétienne. C'est l'Église du Gabon. Ce message est prophétique. Dis à ton frère que même si on ne prophétise pas sur toi de façon personnelle, tout ce qui va être dit dans la prédication, ça va être prophétique. Parce que Dieu va te parler au travers même de la parole. Cette femme n'enfante pas. Elle est stérile. C'est l'image d'une Église qui est stérile. Une Église qui n'enfante pas. Mais qu'est-ce que l'Église doit enfanter? Un enfant, mais c'est quoi un enfant? C'est qui l'enfant? Souvenez-vous que lorsque Rebecca tombe enceinte et qu'elle a des jumeaux dans son ventre, quand le Seigneur se révèle à elle au travers de l'ange, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu dit à Rebecca, deux enfants sont dans ton sein, n'est-ce pas? Non. Oh! Alléluia! Deux nations sont dans ton sein. Bien-aimé, lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas en tant qu'enfant. Quand tu portes un enfant dans ton sein, Dieu ne regarde pas un enfant dans ton ventre. Dieu voit une nation. Alléluia! Et quand la Bible déclare que la femme n'arrivait pas à faire d'enfant, ça veut dire qu'en fait, la femme qui est ici, qui est l'Église, n'arrivait pas à enfanter la nation. La nation est dans le sein de l'Église. C'est l'Église qui doit enfanter la nation. Et la Bible nous dit ici, La femme ne faisait pas d'enfant. Elle a souffert pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait pas à accomplir la destinée pour laquelle Dieu l'avait envoyée sur la terre. Elle ne pouvait pas accomplir cette destinée. Elle était stérile. Alors elle a cherché la face de Dieu pour qu'elle enfante. Bien-aimée, 2011 sera pour toi, Alliance chrétienne, une année d'enfantement. Parce qu'un fils naîtra de toi. Un fils naîtra de toi. Je dis qu'un fils naîtra de toi. Un fils naîtra de la Vierge. Un fils naîtra de la stérile. Pourquoi? Parce que vous devez enfanter la nation. Vous devez enfanter la nation. Mais bien aimé, on a tous lu l'histoire. Cet enfantement ne s'est pas fait de façon aisée. Cette femme a souffert. Et l'Église a souffert. Et l'Église continue de souffrir des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas fini. Bien-aimés, l'Église continue de gémir. Et nous tous, la création entière souffre des douleurs de l'enfantement. Nous soupirons, nous gémissons. À quand? Et quand sera le moment? Je suis venu te dire que le moment est arrivé. Alléluia! Parce que cette année, alléluia! C'est l'année de la distinction maintenant. C'est l'année de l'enfantement pour toi. Où l'enfant qui est dans ton sein va naître. Est-ce que tu m'entends, Alliance chrétienne? Un saint enfant naîtra de toi. Est-ce que tu m'entends, Église du Gabon? Mais cet enfant ne naîtra pas de façon facile. Il y a des douleurs. C'est pour cela que ce soir, le thème que j'aimerais développer dans ce grand thème, le titre, c'est le mystère de la douleur. Alléluia! J'aimerais vous parler du mystère de la douleur. Il y a un mystère caché derrière la douleur. Tu vas dire à ton frère, après ce message, tu vas aimer la douleur. Alléluia! Tu vas aimer la douleur. Tu ne fuiras plus la douleur. Hey. Regardez cette femme. Elle vient d'avoir un enfant. L'enfant meurt. Regardez son attitude. Quand l'enfant meurt, elle ne pleure pas. Elle ne porte pas le pagne noir. Elle ne crie pas partout. Mon enfant est mort. Oh, les sorciers. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'enfant. Elle le met dans la chambre haute. Elle ferme la porte. Elle se dirige vers l'homme de Dieu. J'ai été particulièrement marqué par le caractère de cette femme. La tsunamite, au sein de la douleur, notez cela, au sein de la douleur, l'Église doit garder son calme. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et la tsunamite va garder son calme. Elle ne va même rien dire à son mari. Pourquoi? Parce que vous savez, parfois, il y a des situations que toi-même tu peux gérer. Mais que d'autres ne peuvent pas gérer. Et si tu partages quelque chose que toi-même tu peux gérer à quelqu'un qui ne peut pas le gérer, des fois, il est important de ne rien dire, même à ton mari. Quand tu sais que ce que tu vas dire à ton mari va détruire ta foi. Parce que vous n'avez pas la même maturité spirituelle. Il y a des choses qu'il ne faut pas partager à n'importe qui. Il y a des choses qu'il ne faut même pas partager à ta meilleure copine en Christ. Pourquoi? Parce que son attitude face à ce que tu as comme défi dans ton cœur peut te décourager. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, cette femme va gérer sa douleur. Elle va porter sa douleur. Et quand son mari lui pose la question, ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Pourquoi tu vas rencontrer l'homme de Dieu? Elle dit, tout va bien. Alléluia! Elle dit, tout va bien. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deux Rois, au chapitre 19, au verset 3. Pourquoi cette femme a eu une telle attitude dans la douleur? Qu'est-ce qui se cache derrière cette douleur? Deux Rois, chapitre 19, verset 3. Lisons ensemble. Ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Maintenant, suivez-moi. Je voudrais dire que cette femme a gardé son calme. Pourquoi? Parce que c'est dans le calme qu'est notre force. Donc cette femme avait besoin de force pour l'enfantement. Qu'est-ce qu'elle devait enfanter? Elle devait enfanter la résurrection de son fils.
Alléluia. Alléluia. La douleur a une utilité. La première utilité de la douleur, c'est l'enfantement. Il n'y a rien au monde qui est né sans douleur. Même la femme enfante avec les douleurs. Vous allez me dire, mais oui, c'est parce qu'elle a mangé le fruit interdit. Voilà pourquoi Dieu lui a dit que tu accoucheras avec des douleurs. Dieu ne lui a pas dit qu'elle accouchera avec des douleurs. Ce n'est pas ce qui est écrit. La Bible déclare, j'augmenterai tes douleurs. Si Dieu dit à la femme, j'augmenterai tes douleurs, ça voudrait dire qu'au départ, il y avait déjà la douleur. Parce qu'on ne peut pas augmenter quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que quand Dieu crée Adam et Ève et place Adam et Ève dans le jardin, il avait déjà créé aussi la douleur. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi il dit à Adam, je te place dans le jardin pour cultiver la terre. Les gens pensent que le travail est venu à cause du péché. C'est faux. Avant le péché, il y avait déjà le travail. Quand il crée Adam, il le place dans le jardin. Pourquoi? Pour cultiver la terre. Donc, Dieu n'a fait qu'augmenter les souffrances d'Adam et de Ève. Mais la douleur existait déjà. Pourquoi? Parce que la douleur est utile. Et la première utilité de la douleur, c'est l'enfantement. Il n'y a rien dans ce monde qui peut exister sans douleur. La plupart des grandes inventions dans le monde, des grandes créations, ont été au prix des douleurs. Même dans la médecine, c'est parce que quelqu'un, par exemple, a vu des enfants mourir n'importe comment, devant lui, il a été touché, il voit qu'il n'y a pas de traitement, il commence à chercher, mais quelle est cette maladie qui terrasse l'humanité comme ça, et ça lui fait mal au cœur. Il a peut-être perdu quelqu'un de cher, peut-être son frère, sa soeur, sa mère, sa femme, il a vu mourir comme ça, ça l'a fait mal. Ça lui a fait mal au cœur. Il a eu la douleur au-dedans de lui. Il a souffert. Il s'est dit, j'aimerais relever ce défi. Il s'est fixé un défi, un challenge, et il s'est mis à chercher la solution au problème. Et quand il a trouvé la solution au problème, il est venu présenter devant tout le monde, voici, j'ai trouvé la solution au problème de cette maladie. On appelait ça la découverte, nouvelle découverte scientifique, un vaccin contre le sida, un vaccin contre le paludisme. Pourquoi? Parce que quelqu'un a souffert. Il n'y a aucune création, aucune invention qui n'ait existé sans la douleur. Jésus lui-même, pour que nous puissions être sauvés aujourd'hui, il a dû souffrir. À Gethsemane, il a prié, prié au point que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et les grumeaux de sang, c'est quoi? Scientifiquement, il est dit, ça signifie qu'à l'intérieur, les veines se sont éclatées. Souffrance. Douleur. Et Hébreux nous dit que ce jour, il a crié et il a prié avec des cris et des pleurs. Il a crié à celui qui pouvait sauver son âme de la mort. Et à cause de la douleur que Jésus a souffert à Gethsemane et à la croix de Golgotha, l'Église est née. À cause de la souffrance de Jésus, tu as été sauvé. À cause de la souffrance de Jésus, tu as reçu aujourd'hui le salut. Bien-aimé, le salut n'est pas gratuit. C'est vrai qu'il est dit, allez-y, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il est dit, vous avez reçu gratuitement. C'est la réception du salut qui est gratuite. Mais le salut lui-même, il n'est pas gratuit. Parce que quelqu'un à la croix a payé le prix. Mais c'est toi qui reçois le salut gratuitement. Alléluia. Il n'y a rien sans douleur. Il n'y a aucun ministère qui peut naître sans douleur. Tous les vrais ministères et les grands ministères puissants aujourd'hui vous diront la même chose. C'est au prix de plusieurs souffrances, de tribulations, d'épreuves, de difficultés et de souffrances qu'ils ont dû enfanter leur ministère. Alléluia! Sans souffrance, sans douleur, il n'y a pas enfantement. Je vous ai dit, le titre du message, c'est le mystère de la douleur. Quand je parle du mystère de la douleur, ça veut dire que derrière, il y a des choses cachées. Et la première révélation, c'est de comprendre que la douleur est utile pour l'enfantement. Quand j'ai compris ça, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une épreuve, à chaque fois que j'ai une tribulation, une persécution, une douleur, je dois me poser la question de savoir, qu'est-ce que je dois enfanter? Et alors que je suis en train de parler, le Seigneur me montre que dans la salle, il y a beaucoup de femmes qui vivent des foyers difficiles. Le mari n'est pas chrétien. Et vous vivez l'enfer. Vous vivez des douleurs. C'est dur. Il y en a qui sont sur le point de divorcer. Sœur, arrête-toi un instant. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je dois enfanter au travers de cette douleur? Je ne sais pas si vous connaissez une femme qui s'appelle Joyce Meyer. Joyce Meyer, c'est un grand ministère reconnu aujourd'hui internationalement, mondialement. Est-ce que vous connaissez son histoire? Joyce Meyer a vécu les pires tragédies qu'une jeune fille de son âge à son époque ne pouvait pas vivre. Elle a été agressée, elle a été violée à plusieurs reprises par son propre père. Aujourd'hui, toutes les souffrances qu'elle a endurées ont enfanté son ministère. Et quand Joyce Meyer prêche sur la guérison intérieure, sur la restauration, bien-aimé, il n'y a que des guérisons dans la salle. Alléluia! Mais c'est au prix de la douleur qu'elle a enfanté son ministère. Je suis en train de te dire aujourd'hui, je suis en train de te dire, toi qui es là assis quelque part, ce que tu es en train d'endurer dans ton ministère aujourd'hui va enfanter quelque chose. Je ne sais pas quoi. Joyce Meyer aujourd'hui écrit des bouquins. Elle écrit des livres. Elle ne cesse d'écrire. Et ces livres sont vendus vraiment comme des petits bouts de pain à grande échelle sur le plan international, comme des petits bouts de pain. Bien aimé, ces livres ont été enfantés au prix de la douleur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton couple. Je suis en train de te dire quelque chose. Qui sait si derrière l'épreuve que tu vis dans ton couple se cache un grand ministère de couple? Qui sait? Peut-être que tu vas écrire un bouquin. Peut-être que tu vas écrire un livre qui va être lu partout dans le monde entier. Un livre où, vous savez, quand on est dans la souffrance, il y a une attitude à avoir. J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste 7, 14. J'ai dit aujourd'hui, je vais asseoir la parole. Ecclésiaste 7, 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au jour du malheur, réfléchis. Le problème avec nous, surtout africains, c'est que quand on est dans la douleur, dans le malheur, on ne réfléchit plus. On aime les jours du bonheur parce qu'on peut chanter, on peut danser. On aime danser, les Africains. Les groupes d'animation. Hein? Bon, surtout les sœurs aiment bien chanter. Hein? Alléluia! Nous aimons chanter. Mais vous savez, quelqu'un qui est toujours dans la joie, ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit. Mais attendez, mais c'est la vérité, non? Attendez, quand on chante Alléluia, on crie Alléluia, est-ce que tu réfléchis? Tu ne réfléchis pas. Tu es dans la joie. Plus rien ne compte au monde. Tu as oublié les soucis. Tu as tout oublié. Même les enfants à la maison, tu as voulu que tu aies laissé les enfants à la maison. Tu es dans un autre monde. Pourquoi? Parce que tu es dans la joie. La joie est un état qui te met dans comme une forme d'insouciance. Mais c'est bien. Pourquoi? Parce que ça contribue à ta délivrance. Alléluia! Parce que la Bible dit aussi que la joie du Seigneur est notre force. Mais ce n'est pas dans la joie qu'on réfléchit. Alléluia! Donc, pourquoi Dieu permet les douleurs? Pour que tu puisses réfléchir. La douleur nous permet de réfléchir. Quand tu réfléchis à la douleur, tu te poses des questions. Tu pèses le pour et le contre. Tu tournes. Tu retournes le cerveau. Quand tu dors, tu passes des nuits blanches. Tu es obligé de te lever la nuit, de prier, de chercher la face de Dieu. Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi quelque chose. Révèle-moi. Tu réfléchis. Et la Bible déclare, la révélation de sa parole t'éclaire et te donne de l'intelligence. Alléluia. Il n'y a pas de révélation sans réflexion. Parce que la révélation donne l'intelligence. Et tu ne peux avoir des révélations que dans la souffrance. C'est quand tu endures des souffrances, de la douleur, que tu réfléchis et que Dieu te parle. Ce que je prêche aujourd'hui, ce que l'évangéliste docteur prêche, c'est le résultat de nos souffrances. Et les gens ils te disent, mais homme de Dieu, vraiment, je veux que tu pries pour moi. Impose-moi les mains, je voudrais recevoir ton onction. Et frère, onction là, tu connais? Tu sais d'où ça vient? La révélation que je te libère, tu sais d'où ça vient? C'est pourquoi Jésus a dit, l'histoire de s'asseoir à ma gauche et à ma droite, ça c'est pas le problème. Mais est-ce que tu pourras boire la coupe que je vais boire? L'histoire de partager mon onction, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tu peux boire la coupe de douleur que moi j'ai bu? Et que je continue de boire. Prophète, il ne faut pas jouer avec ça. Prophète, ce n'est pas l'ami de tout le monde. Prophète est ami de tout le monde quand il dit, Dieu va te bénir, alléluia. Ouh, je vois que tu vas être élevé, alléluia. Tu vas être établi, alléluia. Tu vas parcourir le monde, tu vas avoir un ministère international. Vous avez remarqué ça? Tout le monde n'a pas un ministère local. Quand quelqu'un te dit que j'ai reçu un ministère, c'est toujours « Dieu m'a dit que je vais avoir un ministère international. » Tout le monde voit international. Mais je vais te dire, plus la prophétie est grande, plus la douleur sera grande. C'est pour cela que moi je fais très attention quand on prophétise sur moi. Quand on prophétise sur moi, tu vas être élevé. Les nations, je dis « Seigneur, les douleurs. » Dans la douleur, réfléchis. Parce que Dieu cache les solutions à ton problème dans la douleur. Avec la douleur, il y a la solution à ton problème. Prenez l'exemple d'une femme qui a un mari bizarre. Il rentre à la maison, il ne parle pas. Chérie, ça a été la journée? C'est quoi? Chérie, tu vas bien? Tu es devenu médecin. Il rentre à 24h, 1h, 3h du matin, des fois il découche. Tu es là, douleur. Seigneur, douleur. Au lieu de développer la colère, l'amertume, de critiquer, c'est ça le problème avec nous. Quand on est dans la douleur, au lieu de réfléchir, on critique. Au lieu de réfléchir, on se plaint, on murmure. Mais la Bible dit, dans la douleur, réfléchis. Alléluia. Parce que si tu réfléchis, c'est tellement Dieu va te dire, ma fille, ce mari qui est bizarre là, je vais te montrer comment tu vas le changer. Il va commencer à t'apprendre les secrets. Et quand tu vas réussir à mettre en application ça, et que sa vie sera transformée, il va se convertir, il deviendra chrétien. Plus tard, tu vas écrire un bouquin. Comment transformer, comment changer un mari bizarre. Acclamons le Seigneur. Alléluia! Comment changer un mari bizarre à un mari doux, à un mari calé, à un mari romantique, à un mari cadeau. Et quand tu vas écrire ce livre, toutes les femmes du monde vont l'acheter. Voilà comment ton ministère devient grand. Dieu t'appelle un ministère de la femme. On va t'inviter partout dans le monde, tenir des conférences. Tu enseignes aux gens comment changer un mari bizarre. Acclamons le Seigneur. Alléluia! Le mystère de la douleur. Dans la douleur, réfléchis. C'est là que Dieu va te montrer. Vous savez, quand Jacob était chez Laban, Laban a brimé Jacob. Jacob a subi des douleurs atroces. Mais quand Jacob dormait, il réfléchissait. Et pendant sa réflexion, l'ange lui apparaît au chevet de son lit et lui montre les formules scientifiques. Comment faire pour multiplier le troupeau? Comment faire pour multiplier? Remarquez bien que ce n'était pas les vaches fertiles qui étaient vraiment de bonnes vaches. Non, c'était, en fait, Laban lui donnait les chétives. Voilà, il prenait tout ce qui était bon et il donnait à Jacob ce qui n'était pas bon. Parce qu'il savait que ça ne pouvait pas apporter grand-chose. Donc, Jacob ne pouvait pas devenir riche avec ça. Comme ça, lui-même, il devait continuer à rester riche. Il devait toujours être plus riche que tout le monde. Donc, il donnait à Jacob ce qui n'était pas bon. Maintenant, Dieu est venu la nuit au travers de l'ange pour montrer à Jacob comment faire pour changer une vache bizarre, chétive, en vache fertile. Alléluia! Acclamons le Seigneur! Et quand Jacob a appliqué ces formules, il dit, tu prends celles qui sont rayées, etc. Tu mets à telle période de la journée, quand il, le soleil, etc. Il a tout calculé. Dieu est trop scientifique. Formule. Laban était dépassé. Le troupeau s'est multiplié. Il devenait de plus en plus riche. Laban dit, non, tu vas pas continuer à rester ici. Va-t'en. Parce que tu es devenu trop riche et plus riche que moi. Alléluia! C'est comme ça dans la douleur, dans la crise de ton entreprise. Si tu réfléchis, Dieu va te révéler la solution, la formule. Comment sortir une entreprise de la crise économique et la propulser dans la croissance et la prospérité. Acclamons le Seigneur. Alléluia! Les étudiants, quand tu as des 0,75 sur 20 en mathématiques, réfléchis. Parce qu'en réfléchissant, il va te montrer comment transformer un 0,75 sur 20 à un 19,50 sur 20. Acclamons le Seigneur. Alléluia! Comment transformer un 0,75 sur 20 à 19? Et quand tu vas découvrir la formule, tu seras toujours le premier de ta classe en mathématiques. Alléluia! Tu as un enfant qui te dépasse à la maison. Il est compliqué. Tu ne sais pas quoi faire avec lui. On est crié sur lui. Ah, mais toi là, tu es maudit. Tu n'es bon à rien. Tu finiras comme ça. Arrête de maudire l'enfant. Parce que, vous savez, le mot malédiction en latin, en langue latin, c'est maledire. Ça veut dire que la malédiction est une parole. Maldire, une parole mal dite. Et la bénédiction, c'est bénédire, une parole bien dite. Donc la malédiction, ce n'est pas ce que quelqu'un est allé faire à la forêt. Il a pris tes cheveux, il a pris les ongles, les orteils pendant que tu dormais. Et puis il est allé sous un arbre et il a fait... Et il a cité ton nom. Ce n'est pas ça la malédiction. La malédiction est une parole. Simplement. C'est pourquoi il est écrit... Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice sera condamnée. C'est comme ça qu'on brise les malédictions. Donc arrêtez de maudire vos enfants. Réfléchissez. Comment changer un enfant bandit, voyou, un enfant chrétien frère en Christ né de nouveau. Parce que cet enfant-là, c'est le mari d'une sœur en Christ dans l'église. Donc, si tu le maudis, tu le maudis. Le jour où il va se convertir, le pasteur aura du travail. Parce qu'il faut briser les liens, les malédictions, avant mariage. Et parfois, ça poursuit l'enfant jusque dans le mariage. Et c'est la femme, la sœur en Christ, la pauvre sœur en Christ qui est dans la salle, qui va souffrir encore. Donc, réfléchis. Comment changer un enfant bizarre, voyou, à un enfant obéissant? Dieu va te donner la science et la connaissance. Dans la prière, dans la parole. Et cet enfant sera changé. Et un enfant naîtra de tes entrailles. La tsunamite a souffert. Et de la douleur, elle a enfanté. Dans la douleur, elle a réfléchi. Voilà pourquoi elle était toujours calme. Toujours calme. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Juges, chapitre 14. Là également, il y a un mystère. Juges, chapitre 14, à partir du verset 6.
Gloire à Dieu.
Docteur, s'il te plaît, viens m'aider là. J'ai du mal avec le micro là. Voilà pourquoi j'aime bien les micros sans fil, parce que je suis plus libre. Pour moi, Juges chapitre 14, à partir du verset 6. C'est l'histoire de Samson. Je vous parle du mystère de la douleur. Je vous ai dit qu'à la fin de ce message, vous allez aimer la douleur. Alléluia. C'est bien d'avoir les docteurs. Hein? Merci, docteur. Alors, il est écrit ceci. D'abord, on va lire à partir du verset 1 pour comprendre le contexte. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, on va terminer avec ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on a tout le temps, et les autres soirs encore, pour décortiquer les mystères cachés derrière ce texte. Donc, on va arrêter là aujourd'hui. Je voudrais vous partager la dernière révélation dans ce passage. On nous dit donc que lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et sa mère. Et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles des frères, de tes frères dans tout notre peuple que tu ailles maintenant prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Dites, ils ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Donc on est bien d'accord que le désir de Samson venait de l'Éternel. Alors, Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent, ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion. Dites un jeune lion. Voici un jeune lion vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Alléluia. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion rugissant. Il y a du miel dans le lion. Je dis qu'il y a du miel dans le lion. Ta souffrance est un lion. Mais il y a du miel dans le lion. Ta douleur est un lion. Mais il y a du miel dans ce lion. Si seulement tu te jettes en colère contre le lion. La Bible déclare que tu vas déchirer le lion comme on déchire un chevreau. Et tu trouveras à l'intérieur du miel. Le miel, c'est la provision. Le miel, c'est la provision. Quand vous lisez la suite du texte, il a mangé le miel. Il est parti, il a trouvé son père et sa mère. Il a donné du miel à son père et sa mère. Et ils ont tous mangé ce miel. Mais quel était le but du lion? C'est de faire barrage à Samson pour l'empêcher d'aller conquérir son épouse. C'est pourquoi il est écrit, quand vous lisez le texte, on va lire ensemble. Samson, au verset 6, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Donc, après avoir déchiré le lion, il conquit la femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Samson n'avait pas déchiré le lion, il n'aurait jamais pu conquérir la femme. Je ne sais pas ce qui fait barrage à ton projet. Je ne sais pas ce qui fait barrage à ton mariage. Je ne sais pas ce qui fait barrage à tout ce qui se passe dans ta famille, les problèmes, les conflits, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Mais la Bible me révèle ici, quel que soit le problème que tu vis, quelles que soient les difficultés, quels que soient les conflits au sein de ta famille, quels que soient les blocages dans ta vie, quelles que soient les malédictions, ce sont des lions que tu dois déchirer. Alléluia! Lorsque tu vas déchirer ce lion, tu trouveras du miel. Tu trouveras du miel. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que dans la souffrance, on se met en colère, mais on se met en colère contre nos frères. On se met en colère contre les hommes. Mais ici, Samson ne s'est pas mis en colère contre un homme. Il s'est mis en colère contre le lion. Je suis en train de te dire que l'une des choses que la souffrance apporte, l'une des utilités de la douleur, c'est la colère. Parce que la colère te donne la force de te jeter sur des lions et de les déchirer sans couteau, comme on déchire un chevreau. Donc, quand nous n'avons pas de problèmes dans nos sociétés, dans nos familles, dans l'église, c'est dû à la colère. Tu as une colère contre ton frère, contre ta soeur. Tu as une haine. Et le Seigneur nous dit que lorsque tu es en colère contre ton frère, tu commets déjà un meurtre. En fait, j'aimerais vous faire une révélation. La colère n'est pas destinée à l'homme. La colère n'est pas destinée à l'homme. J'aimerais vous amener à lire avec moi quelques passages. On va bientôt terminer. Romains chapitre 1, verset 18. J'aimerais vous dire à quoi est destinée la colère. Parce que Dieu aussi se met en colère, voyez-vous. Mais on va voir contre qui ou contre quoi Dieu se met en colère. Est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix? Romains chapitre 1, verset 18, plus fort. Oui. Alléluia! La colère de Dieu se révèle contre qui? Contre toute injustice des hommes et non contre les hommes. Tu m'as pas compris. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et toute impiété des hommes et non contre les hommes. Parce que l'homme ne peut pas contenir la colère. L'homme ne peut pas supporter la colère. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu te fâches avec quelqu'un, même quand tu as raison, quand tu te fâches avec la personne, même si elle reconnaît qu'elle a tort, si elle agresse, elle va se défendre. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas supporter la colère. La colère ne lui est pas destinée. Mais la colère est destinée à ce qu'il a fait de mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand tu as à côté de toi quelqu'un qui fait du mal, même contre toi, ne te déchaîne pas contre la personne. Enflamme-toi contre l'esprit qui est derrière la personne. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand Pierre lui a dit, oh Seigneur, tu ne mourras pas. Il n'a pas dit, Pierre, tu es Satan. Il a dit, arrière de moi, Satan. Ce n'était pas Pierre. Il parlait de l'esprit qui était derrière Pierre. Donc la colère de Dieu n'est pas destinée à l'homme. La colère de Dieu est destinée à toute injustice, contre toute impiété et contre tous les mauvais esprits. Je vais te dire que quand tu te fâches, fâche-toi contre le péché. Quand tu te mets en colère, mets-toi en colère contre les démons. Alléluia. Tu vois un frère qui t'énerve à l'église. Il est toujours en train de t'énerver. Il fait tout pour t'énerver. Au lieu de te fâcher contre le frère, quand tu tournes ton dos, attaque-toi à l'esprit qui l'habite. Comment l'esprit de provocation? Comment l'esprit d'irrespect? Comment l'esprit d'impolitesse de quitter ce frère? Et tu verras au bout de quelques jours, ce frère va changer. C'est pourquoi la Bible déclare que nous devons ramener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. On doit s'élever contre tous les raisonnements hautains et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Christ. Ta colère doit être contre les raisonnements, contre les hauteurs, contre les esprits méchants, contre le mal et non contre l'homme. C'est la raison pour laquelle quand Jésus rentre dans le temple à Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en colère, pas contre les hommes. Il se met en colère contre ce que les hommes faisaient. Voilà pourquoi il va renverser les tables. Parce que le problème, ce n'était pas les hommes. Le problème, c'était les tables. C'est là que se faisait le trafic. Dans la maison de l'Éternel. Alors il a renversé ce qui était un obstacle à la prière. Et il a dit, la maison de mon père. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alors tout ce qui est un obstacle à la prière, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse. Et Jésus s'est mis en colère contre les esprits qui faisaient obstacle à la prière. Acclamons le Seigneur, alléluia. Alléluia. Voici ce que produit la douleur. Quand tu es dans la douleur, tu te mets en colère. Vous avez vu comment cette femme était en colère quand elle est allée rencontrer l'homme de Dieu? Même Géasi n'avait pas le droit. Franchement, Géasi, moi, je n'ai pas affaire à toi. Même quand Élisée dit à Géasi qu'il va. Elle regarde Géasi, dit, moi, je n'ai pas confiance en toi, Géasi. Elle était en colère. Vous voyez comment elle parle à Dieu. Elle dit, mon Seigneur, est-ce que je t'ai demandé un enfant? Une femme en colère, mais d'une sainte colère. Il fallait me laisser comme j'étais. Hein. C'est toi-même qui as dit. Et je t'ai bien averti, ne me trompe pas. Quand tu te mets en colère, mets-toi en colère contre Dieu. Fâche-toi. Fâche-toi. Dieu, je t'ai demandé ça. Dieu, est-ce que c'est moi qui me suis appelé à ce ministère de pasteur? Dieu, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as envoyé. Prends tes responsabilités. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Prends tes responsabilités. Parce que ce peuple n'est pas mon peuple. Ce peuple est le tien. Alors prends tes responsabilités. Fâche-toi. C'est l'erreur que Caïn a commise. Il s'est fâché contre Abel. Mais est-ce que... Abel n'a pas de problème avec lui. C'est pas Abel qui est le problème. C'est Dieu qui a dit à Caïn que ton offrande n'est pas bonne. Ce n'est pas Abel. Abel a simplement offert quelque chose qui était agréable à Dieu. Et quand Dieu arrive, la Bible déclare que Dieu agréa l'offrande d'Abel et il désapprouva l'offrande de Caïn. Et Dieu dit à Caïn, ton offrande n'est pas bonne. Donc, s'il devait se fâcher, il fallait qu'il se fâche contre Dieu. Et comme il s'est fâché contre Abel, alors il a tué Abel. Pourquoi? Parce que la colère n'est pas destinée à l'homme. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de te dire, la colère n'est pas destinée à ton mari. La colère n'est pas destinée à ta femme. La colère n'est pas destinée à ton enfant. La colère n'est pas destinée aux sorciers de ton village. La colère n'est pas destinée à ces personnes qui te veulent du mal. La colère n'est pas destinée à cette femme qui a pris ton mari. La colère doit être destinée à l'esprit qui agit derrière. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un que tu dois prendre Mangamba, c'est Dieu. Prends Dieu Mangamba. Dis Mangamba. Comme Jacob a pris Dieu Mangamba. Il a attrapé Dieu Mangamba. Il était en colère. Il était déchaîné. Il a dit aujourd'hui, tu ne partiras pas que tu m'aies béni. Oh! Alléluia! Fâche-toi contre Dieu. Fâche-toi contre Dieu. Hey! La Bible déclare que Jacob a lutté contre Dieu. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec les hommes. Bien aimé, Jacob était en colère aussi contre lui-même. Il voulait en finir. Vous savez pourquoi? Parce que quand Jacob quitte Isaac et qu'il va vers Laban, il était Jacob, le trompeur. La volonté parfaite de Dieu n'était pas que Jacob aille chez Laban. La volonté parfaite de Dieu était de transformer Jacob. Parce qu'il s'appelait trompeur, usurpateur. C'est la raison pour laquelle, alors que Jacob est sur le chemin d'aller vers Laban, Dieu se révèle à Jacob. Et il voit une échelle qui monte de la terre vers le ciel et dont le sommet touchait le ciel de Dieu. Et il voit des anges qui montent et qui descendent. C'est la gloire de Dieu. C'est le symbole de la gloire de Dieu. Et je ne connais aucun homme qui a été en contact avec la gloire de Dieu et qui est resté le même. Toutes les personnes qui ont eu la révélation de la gloire de Dieu ont été transformées. C'est pourquoi la Bible déclare, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Voici ce que Dieu voulait faire dans la vie de Jacob. Le mettre en contact avec sa gloire, afin de le transformer. Mais Jacob n'avait pas compris la révélation. Il a contemplé la beauté de la vision. Les anges montaient et descendaient. Il n'a rien compris. C'est quand les anges sont partis, l'échelle a disparu. Il s'est réveillé, il a dit, wow, l'Éternel était certainement en cet endroit, mais je ne le savais pas. Il ne le savait pas. Il n'a pas capté la révélation. Voilà pourquoi il est passé à côté de la transformation. Et quand tu ne captes pas la voix de la souffrance, parce que Dieu te parle dans la souffrance. Quand tu ne comprends pas le langage de la souffrance, quand tu ne comprends pas l'instruction de la souffrance, tu es obligé de continuer dans la souffrance jusqu'à ce que tu comprennes. Et Dieu est obligé de continuer à utiliser l'épreuve pour t'enseigner. Dieu n'est pas obligé d'utiliser l'épreuve pour t'enseigner lorsqu'on est prompt à comprendre, lorsqu'on est prompt à écouter, lorsqu'on est prompt à obéir. Nous rattrapons le temps. Nous rachetons le temps. Il y a des combats auquel on échappe. Pourquoi? Parce que on a le discernement. La Bible déclare, tu n'aimes, lisez. La Bible déclare, elle a dit à son mari, cet homme est certainement un homme saint. Pourquoi? Parce qu'une femme de distinction a le discernement. Alléluia! Elle a le discernement. Au sein de l'épreuve, tu as le discernement. Et tu sais quand Dieu te parle. Tu sais quand Dieu se révèle à toi. Et tu sais rattraper le temps. Et tu es obligé de gagner du temps dans ta destinée. Beaucoup dans cet endroit ont retardé leur destinée. Ont appris l'obéissance au travers de beaucoup de choses dont ils ont souffert. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été attentifs à la voix de la souffrance. Le but de la souffrance est de te transformer. L'onction ne transforme pas. Je le répète, l'onction ne transforme pas. C'est la gloire de Dieu qui transforme. Vous n'avez jamais vu ça? On envoie l'onction dans la salle, comme encore on l'a fait. On va encore certainement le faire durant cette conférence. Les gens tombent de partout. Ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent. Les mêmes qui sont tombés, qui se relèvent. Dimanche prochain, ils vont encore tomber. Le dimanche prochain, ils vont encore tomber. Ils vont tomber même 7 fois. Tous les dimanches, mais ils resteront les mêmes. L'onction ne transforme pas. Il y a des gens qui portent l'onction, qui prêchent, qui font des guérisons, des miracles, ils ont l'onction. Mais quand vous regardez leur vie, ils ne sont pas droits devant Dieu. Ils sont les auteurs de plus grandes abominations sur la terre. Des choses qu'on ne trouve même pas dans le monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Corinthe que mais ce que vous faites là, même les gens du monde ne peuvent pas le faire. Bien-aimés, Corinthe était une église où il y avait tous les neuf dons spirituels. Il y avait l'onction, mais il n'était pas transformé, il vivait dans la chair. L'onction ne transforme pas, mais c'est la gloire de Dieu qui transforme. C'est pourquoi Christ en nous est l'espérance de la gloire. Alléluia. Et pour revenir à Jacob, parce qu'il n'a pas écouté la voix de la révélation, il est allé jusque chez Laban. Il est resté plus de 14 ans. Maintenant, suivez ceci. Ça pose avoir été brimé, maltraité. Quand il sort de chez Laban, Dieu se révèle à nouveau à lui, à Bethel. Et c'est là qu'il va lutter avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il se révèle à lui où? À? Ça veut dire quoi, Bethel? Là? Oui, porte des cieux. Le ciel s'ouvre sur lui. Et c'est là que Jacob capte la révélation. Et c'est là qu'il va prendre Dieu Mangamba. Il dit, la première fois, je n'ai pas compris. Mais là, là, tu ne partiras pas sans que tu le mettes transformé. Alléluia! Et ce jour, Dieu a changé son nom. Il est passé de Jacob à Israël. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère contre lui-même. Il a dit, Jacob, c'est pas possible. Tu as trop perdu du temps dans ta vie. Jacob, c'est pas possible. Réveille-toi maintenant. Maintenant, prends conscience. Trop, c'est trop. On va en finir. Alléluia. Et Jacob en a fini avec lui-même ce jour. Sa jambe a été déboîtée. Il n'était plus le même. Il était transformé. Il est devenu Israël. Alléluia. Au sein de l'épreuve, au sein de la difficulté, écoute la voix de la révélation. Parce que Dieu va te transformer. Fâche-toi contre toi-même. Au sortir d'ici, mets-toi en colère contre toi-même. Contre les vices qui te retiennent dans ta foi. Contre le péché qui te retient. Contre toutes ces abominations. Dans ton cœur, tu veux t'en séparer. Tu sens comme une force. Tu veux faire le bien. Tu sais ce qui est bien de faire. Tu veux le faire, mais tu n'arrives pas à faire ce bien. Et le mal que tu ne veux pas, c'est à ça que tu as attiré. Fâche-toi contre toi-même. Fâche-toi contre toi-même. Et que la colère qui naîtra de ton cœur puisse déchirer le lion. Et que dans le lion, tu trouves le miel. Alléluia. Mais remarquez ceci. Le miel, il n'a pas trouvé le même jour. Quand vous lisez le texte, quelques temps plus tard, quand il est revenu par là, il est revenu voir le cadavre. C'est là qu'il a trouvé le miel. Le miel vient avec le temps. Le miel vient avec le temps. Le miel n'est pas pour les gens qui sont pressés. Le miel est pour les patients. Cette année, le miel va couler dans ta vie. Je dis que cette année, le miel va couler dans ta famille. Je dis que cette année, le miel va couler dans ton entreprise. Cette année, le miel va couler dans ton couple. Cette année, le miel va couler dans notre église, dans l'église au Gabon. Alléluia! Et si tu le crois, dis alléluia, acclame le Seigneur et pousse des cris de joie. Alléluia! 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 Lève-nous, on va prier le Seigneur. Lève-nous, on va prier le Seigneur. Gloire à Dieu! Il y a du miel dans ton épreuve. Il y a du miel dans le lion qui rôde autour de toi. Il y a du miel dans ce que tu vis dans ton couple. Il y a du miel. Mets-toi en colère contre le lion. Mets-toi en colère et déchire ce lion. Tu trouveras le miel avec le temps. Il a dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. C'est une promesse pour ton âme. Tu ne manqueras de rien. Dieu parle à quelqu'un dans la salle. Tu as beaucoup investi. Même dans les œuvres de Dieu, tu donnes ta dîme, tu donnes les offrandes, mais tu as l'impression que tu continues à te ruiner. Tu as tout le temps des problèmes financiers. Et le diable commence à te parler, arrête de donner, parce que tu ne vois rien de toutes les façons. Avec le temps, tu le retrouveras. Parce que le miel se fermente dans le temps. Et quelqu'un a dit, le temps juge les puissants. Ta puissance sera jugée. Alléluia. Est-ce que j'ai compris ce soir le mystère de la souffrance? Est-ce que j'ai compris ce soir le mystère de la douleur? Est-ce qu'à partir de maintenant, tu vas commencer à aimer la douleur? Et prendre la douleur pour un compagnon de service, un compagnon de route, quelqu'un qui est là pour t'apporter beaucoup de choses utiles, pour accomplir ta destinée sur la terre. Si tu le crois, acclame le Seigneur, élève tes mains vers le ciel. Alléluia! Tu enfanteras ta destinée au travers de la douleur. Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour ce message. Prions ensemble. Prions ensemble.